Monsieur Rémi Djamous, bonjour.
Bonjour Eda.
Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'enfant soldat. Quelle est la situation des enfants soldats en République centrafricaine?
Aujourd'hui, selon les statistiques de différentes organisations et agences des Nations Unies, nous avons environ 12 000 enfants qui sont enrôlés dans les rangs des groupes armés. Ça, c'est un chiffre officiel. Et même si ces derniers temps, la situation se dégrade un peu, on nous signale aussi d'autres enrôlements dans certaines zones de conflit. Et donc, cette situation s'aggrave de jour en jour, même si il y a certaines organisations qui mettent en place des programmes qui peuvent démobiliser ces enfants. Mais cela ne suffit pas d'éradiquer ce phénomène dans la société centrafricaine. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des enfants qui sont enrôlés par la force. Il y a certains enfants aussi au sein même de ces groupes armés qui sont utilisés comme des esclaves, comme des transporteurs. Et donc, la situation est alarmante et nous déplorons ce qui se passe et surtout les enfants qui sont aujourd'hui victimes de cette situation.
Et votre organisation, le CP2E, travaille pour la cause de protection des enfants. À l'heure où nous parlons, combien d'enfants avez-vous pu faire sortir de cette situation?
Ces derniers temps, nous travaillons avec certains partenaires, donc environ plus de 200 enfants que nous avons démobilisés. Et pour le moment, nous avons un programme vers Bokaranga avec World Child que nous comptons d'ici la fin de cette année démobiliser au moins 300 enfants dans les rangs de groupes armés. Et donc, nous continuons toujours ce combat, nous continuons toujours ce programme avec les partenaires d'appui pour que nous puissions vraiment surtout pousser les responsables des groupes armés à libérer les enfants qui sont dans leur rang et surtout assurer leur démobilisation et leur réinsertion. Et donc, certaines organisations aussi ont des programmes pour la démobilisation de ces enfants et aujourd'hui des centaines d'enfants ont été libérés, mais en plus que nous libérons les enfants de l'autre côté, mais de l'autre côté il y a certains responsables de groupes armés qui continuent à enrôler les enfants dans leur rang et nous rappelons à ces responsables des groupes armés que tout ce qu'ils commettent comme acte en recrutant les enfants dans leur rang c'est contraire au droit international humanitaire et que s'ils continuent dans ce sens il y aura des textes applicables que chaque personne sera responsable vis-à-vis de la loi.
Et justement, quelles ont été les approche développée par votre organisation pour réintégrer ces enfants?
D'abord, l'approche, c'est beaucoup plus le plaidoyer. Il fallait faire le plaidoyer parce que les enfants qui sont beaucoup plus dans les rangs des groupes armés sont des soldats, parfois d'autres sont des responsables des unités, etc. Et donc, on les considère comme des grands combattants et il fallait négocier avec les responsables, surtout au niveau de ces groupes armés à haut niveau, avec l'implication de la communauté internationale, surtout la MINUSCA et l'UNICEF et d'autres organisations qui travaillent dans ce sens-là pour libérer ces enfants. Il fallait identifier ces enfants parce que si on ne les identifie pas c'est difficile aussi de les documenter. Il faut les identifier, les documenter et voir comment, dans quelle stratégie, surtout voir, demander à ces enfants quelle option ils veulent prendre. Et surtout il y a des enfants qui ont encore l'âge scolaire, il fallait les inscrire à l'école et il fallait assurer leur suivi scolaire, etc. Mais d'autres qui ont dépassé l'âge scolaire, il fallait leur proposer des formations professionnelles et donc c'est cette stratégie que nous mettons en place et nous essayons de continuer dans ce sens-là et surtout le suivi de ces enfants.
Pouvons-nous avoir une idée claire sur les groupes auxquels ces enfants réintégrés appartenaient ainsi que leurs zones d'action?
Aujourd'hui, en commençant même, il y avait 14 groupes armés et aujourd'hui, le nombre augmente de jour en jour. Et donc, dans tous ces groupes armés, il y a des enfants qui sont enrôlés. Parce que parfois même, les responsables des groupes armés ne contrôlent pas les comzones, etc., qui engagent les enfants comme ils veulent et ils utilisent ces enfants dans les combats, ils utilisent ces enfants dans des violences que les enfants n'ont pas vraiment cet âge-là de faire face à des situations pareilles.
Comment est-ce que ces enfants ont été accueillis par leurs parents?
Parfois, c'est un peu difficile dans certains cas, du moment où l'enfant qui était leur bourreau et se retrouve aujourd'hui dans la famille, il fallait l'accueillir, etc. C'est pas tout le monde qui a le cœur d'accueillir des enfants, mais il y a des étapes à passer. D'abord, il fallait une médiation avec la communauté. Non seulement ce sont ses parents, mais cet enfant, quand il revient à la maison, il doit vivre dans une communauté. Il fallait engager des négociations avec cette communauté, avec les membres de la société pour voir comment les préparer pour l'accueil de ces enfants, pour ne pas que ces enfants deviennent un sujet de discrimination ou bien de menaces, etc. Et donc, pour ne pas encore les exposer à la violence, du moment où ils sont déjà victimes d'une violence dans les rangs des groupes armés. Et donc, il y a aussi des plans de suivi que nous mettons en place pour discuter avec les membres de la famille, pour discuter avec l'enfant au fur et à mesure. Il y a des agents que nous mettons dans ce système, dans ce programme-là, pour accompagner les enfants au moment de leur réinsertion.
Mais pour ceux dont les parents refusent de les accueillir, comment se fait le suivi de ces enfants pour leur réinsertion dans la vie active?
Généralement, nous nous faisons appel à des FAT, les familles d'accueil temporaire. Il y a des familles qui s'engagent volontairement à accueillir parfois certains enfants chez eux. Et donc, on les appelle les familles d'accueil temporaire et nous pouvons référer ces enfants auprès des familles d'accueil temporaire du moment où il n'y a pas un centre d'accueil ou bien un centre de prise en charge de ces enfants. Il fallait le référer auprès de ces familles d'accueil temporaire et faire leur suivi en entendant que nous continuons la discussion parce que la loi est claire. L'enfant doit vivre dans son milieu familial. Et donc, il faut continuer la négociation avec les membres de la famille pour voir quelle option nous pouvons adopter pour que cet enfant soit réinséré et surtout soit pris en compte dans leur famille ou bien dans leur société.
Et de quelle manière se fait leur protection après leur retrait?
Oui, il y a un système de monitoring que nous faisons à chaque fois pour remonter les informations concernant la situation de cet enfant dans sa société. Est-ce qu'il est stigmatisé? Est-ce qu'il est victime de discrimination, etc.? Hebdomadairement, nous passons pour rendre visite à l'enfant, pour voir son milieu de vie, là où il fréquente, etc. Quelle est sa situation? Est-ce qu'il s'adapte bien? Parfois, il y a un accompagnement psychosocial qui est fait et du moment où l'enfant est toujours dans cette période d'accompagnement psychosocial, c'est pas facile de le gérer dans la famille après avoir passé beaucoup de moments dans des milieux atroces, dans des milieux de violence, etc. Il a un comportement un peu bizarre, mais il fallait accompagner cet enfant, assurer sa prise en charge sanitaire, psychosociale aussi, et donc pour que cet enfant vraiment reste dans une bonne condition et nous évaluons la situation et surtout l'évolution de son comportement aussi, de sa manière de vivre dans la société aussi, de la manière dont les autres le traitent aussi dans leur société pour que nous puissions voir quelles stratégies nous pouvons utiliser pour créer un environnement propice à la protection à ces enfants.
Quelles sont les autres difficultés majeures auxquelles votre organisation est confrontée dans cette tâche combien difficile?
Non seulement notre organisation, mais déjà un obstacle que nous bravons à chaque fois, c'est du moment où il y a des résistances, où les responsables des groupes armés refusent parfois de libérer certains enfants, et là ça pose problème. Et en plus encore, je voulais rappeler, avec l'accord de paix de Khartoum, où c'est stipulé quelque part dans quelques dispositions que ceux qui enrôlent les enfants dans leur rang seront poursuivis, ça fait que certains responsables des groupes armés se désengagent de la responsabilité des enfants qui sont dans leur rang, de peur qu'ils ne soient pas poursuivis demain. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de ces groupes armés où il y a cette résistance, ou même il y a certains enfants, du moment où ils voient qu'il y a des avantages de terrain parce qu'ils ont des armes, ils peuvent récupérer des choses, etc., ils ne veulent pas quitter ce rang, même si parfois l'ordre vient de leur chef, mais ils ne veulent pas quitter ce rang et ça fait que ça pose grandement de problèmes.
Monsieur Rémi Djamous, la République centrafricaine dispose aujourd'hui d'un département ministériel travaillant pour la promotion de la famille et de l'enfance. Quelle relation entretenez-vous avec ce département et quelle analyse faites-vous du rôle joué par cette institution?
Oui, le ministère de la Famille, c'est un ministère de tutelle d'abord qui s'occupe de toutes les organisations qui travaillent sur la question des affaires sociales, sur la question de la protection de l'enfant. Par exemple, notre organisation est partenaire du ministère. Et donc, nous entretenons des relations, de partenariats avec le ministère à travers des chefs secteurs qui sont dans les arrière-pays. Parce que là où nous travaillons, il y a des chefs secteurs des affaires sociales et nous travaillons en collaboration avec ces chefs de secteur pour que nous puissions mettre en œuvre les activités que nous mettons en place dans les zones respectives. Et donc, sur des questions des enfants associés à des forces et groupes armés, il y a aussi le ministère de DDR, chargé de DDR, où ça pose un peu de problème. Parce que du moment où, au sein de ces départements, il y a encore une autre entité qui s'occupe des DDR, il y a la confusion en ce qui concerne le cahier de charge de chaque entité. Le ministère fait quoi exactement?
Mais laquelle entité?
Mais le haut commissariat chargé de DDR. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Qu'est-ce que le ministère font concrètement? Quel est leur cahier de charge, etc.? À un moment donné, les partenaires de mise en œuvre de terrain ont des difficultés. À qui nous devons rendre compte? À qui nous devons travailler pour aboutir à ces résultats? Et donc, il fallait vraiment qu'il y ait de l'ordre pour qu'on sait qui fait quoi et pour ne pas que quelqu'un entrave aussi le travail de l'autre.
Monsieur Rémi Djamous, merci.
Merci à vous aussi, Eda.